Mode d'emploi, l'émission hebdomadaire d'AC Agir ensemble contre le chômage. Sur FPP, fréquence Paris pluriel, 106.3 MHz, à 20h30, tous les vendredis.
Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes sur Mode d'emploi bien sûr, comme le dit le générique. Je suis Gilles au micro avec Ludo et Christophe, bonjour à tous les deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, Claude à la technique comme d'habitude. Alors aujourd'hui c'est une émission particulière parce que nous allons parler donc de la CDC, c'est donc les autres chiffres du chômage qui ont tenu donc une conférence ces derniers jours. Et on va parler bien sûr de le baromètre des inégalités et de la pauvreté, Ludo. Alors on a quelques enregistrements donc de cette conférence. Peux-tu nous en parler un peu plus?
Oui, tout à fait. Donc les autres chiffres du chômage, c'est animé entre autres par Pierre Concialdi et Franck Coutreau. C'est une association qui regroupe plusieurs intersyndicales de la NPE, de l'INSEE et d'autres collectifs. Pierre et Concialdi et Franck Coutreau sont respectivement membres du Conseil de l'emploi et de la cohésion sociale et du réseau d'alerte sur les inégalités. Alors, ils vont nous parler cette fois-ci du baromètre des inégalités et de la pauvreté, dit aussi le BIP 40. Alors, pourquoi le BIP 40 C'est parce que nous avons constaté ces derniers temps que le taux de chômage tel qu'il est présenté chaque fin de mois n'est plus une donnée fiable et représentative de la montée de la pauvreté et des inégalités dans notre société, comme l'a montré la récente polémique sur les chiffres du chômage. Le BIP 40, c'est un baromètre qui prend en compte une soixantaine d'indicateurs statistiques et qui couvre les domaines de l'emploi, des revenus, de la santé, de l'éducation, du logement et de la justice. Sa création est née d'une polémique avec l'INSEE et ces fameuses méthodes de calcul de la pauvreté, un peu bizarres, nous l'expliquera tout à l'heure Pierre Concialdi. Alors, cela ne surprendra personne si, dans ce nouvel indicateur, le chômage et le revenu occupent une part prédominante, mais pas uniquement, puisqu'il y a aussi le logement qui intervient qui pèse sur les inégalités en France, et qui, je le rappelle, n'est pas pris dans le calcul de la hausse du pouvoir d'achat des ménages, dans le calcul fait par l'INSEE. Voilà, et je ne surprendrai personne non plus si depuis 2002, le BIP 40 n'a cessé d'augmenter, comme nous le dit Pierre Concialdi. On l'écoute.
Alors, le premier constat, c'est que les inégalités, globalement, sont reparties à la hausse après 2002, de façon assez sensible, surtout en 2003, mais la hausse s'est poursuivie en 2004 et aussi en 2005. Aujourd'hui, on a atteint, d'après l'indicateur du BIP 40, le niveau le plus élevé des inégalités sociales dans notre pays depuis 25 ans. Ce diagnostic, il contredit largement celui qu'on peut avoir à partir des statistiques officielles, que ce soit en matière d'inégalité de revenus ou de pauvreté, puisque grosso modo, les statistiques officielles nous disent que il ne s'est pas passé grand-chose en matière de pauvreté ni d'inégalité depuis 25 ans, et même, selon certains indicateurs, ça aurait plutôt baissé. Entre 1997 et 2002, le taux de chômage BIT a fortement baissé. Il était de 12,5% en 1997, il est passé à 8,8%. Et cette seule baisse permet d'expliquer l'intégralité, finalement, de la baisse du BIP 40. Donc il y a eu une contribution tout à fait majeure de ce qui s'est passé en matière d'emploi et de chômage sur cette période, sur l'évolution du BIP 40, et cette contribution a été contrebalancée assez fortement par la montée des inégalités en matière de logement. C'est ce que vous voyez de façon assez significative sur le graphique. Donc ce qui a eu pour effet de ralentir la diminution de la baisse observée sur cette période 1997-2002. Si on regarde maintenant ce qui s'est passé après 2002, le chômage a toujours contribué Alors cette fois-ci, on est dans une période de hausse du BIP 40, hausse non négligeable et très significative. En matière de chômage, si on prend les indicateurs usuels, le taux de chômage BIT, il a légèrement augmenté. Il est passé de 8,8 à 9,8, 8,8 donc en 2002 à 9,8 en 2005. Et comme vous le savez, D'après l'enquête emploi, le taux de chômage serait resté stable en 2006. Donc on a une légère hausse du chômage qui expliquerait un peu moins de 20% de la croissance du BIP 40. Et ça s'est accompagné de l'accroissement des inégalités associées au chômage. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est les inégalités entre catégories sociales, entre hommes et femmes, selon l'âge, la dégradation de l'indemnisation du chômage dont on a déjà parlé dans une précédente conférence de presse. Ça a contribué à rajouter encore davantage au creusement des inégalités en matière de chômage. Et globalement, les indicateurs qui sont liés au chômage dans le BIP 40 ont contribué pour environ un quart à la hausse observée entre 2002 et 2005. Donc un quart, c'est pas négligeable, mais c'est très différent de ce qu'on avait observé, comme je viens de vous le dire, entre 1997 et 2002.
Voilà, vous venez d'entendre Pierre Concialdi nous rappeler que le niveau des inégalités n'avait jamais été aussi élevé que depuis aujourd'hui, depuis 25 ans en fait. Nous voilà replongés 25 ans en arrière et une des causes, comme il l'expliquait, était l'inégalité devant le logement, mais pas uniquement, puisque il va aussi nous expliquer que il y a la part de la propriété dans le revenu dans le revenu des ménages qui a fortement augmenté et ce qui change beaucoup beaucoup de choses pour les gens qui sont simplement salariés.
Donc il y a d'autres formes d'inégalité qui se sont développées, notamment en ce qui concerne l'emploi, la multiplication des emplois précaires, CDD, intérim, sous-emploi, qui ont recommencé, dont la part a recommencé à croître en 2003 et qui se maintiennent sur les dernières années à un niveau élevé. En matière de conditions de travail, les maladies professionnelles, les accidents de travail qui sont de plus en plus graves, là on a des indicateurs qui virent vraiment au rouge et qui atteignent leur niveau record en 2005 sur l'ensemble de la période qu'on étudie, c'est-à-dire quand même 25 années, ce qui est le signe de ce qu'on soulignait aussi dans la dernière note du collectif du développement de ce qu'on a appelé l'emploi insoutenable, c'est-à-dire l'emploi qui s'accompagne de mauvaises conditions de travail qui sont nuisibles à la santé. En résumé, la précarité de l'emploi, le développement de la précarité de l'emploi, la dégradation des conditions de travail, ça explique environ 15% de la hausse du BIP 40 depuis 2002. Donc ça a apporté, la précarité pèse de plus en plus dans le creusement des inégalités sociales dans notre pays. Alors chômage, précarité, il ne faut pas être grand clair pour voir que ça pèse également sur les conditions de rémunération, non seulement sur les conditions de travail, mais également sur les conditions de rémunération des salariés. Donc on a aussi dans le BIP 40 un certain nombre d'indicateurs qui retracent ces phénomènes. J'en cite quelques-uns. Par exemple, la part des salaires dans la valeur ajoutée depuis 2002 se maintient à un niveau historiquement très faible. Elle n'a pas baissé davantage, en schématisant, que la baisse qu'on avait pu observer sur certaines périodes, mais elle se maintient à un niveau très très faible, ce qui contribue à maintenir le BIP 40 en revanche à un niveau élevé. Autre indicateur qui était aussi assez significatif, c'est la part des revenus financiers dans le total des revenus des ménages, qui se situe toujours à un niveau élevé. Pour vous donner un ordre de grandeur, je crois que c'est assez parlant, la part de ces revenus de la propriété, pas uniquement financiers d'ailleurs, représente presque l'équivalent de la moitié des salaires nets perçus aujourd'hui par les ménages. Hein, c'est-à-dire que vous avez une masse de salaires nets qui est de 100, et les ménages, enfin certains d'entre eux en tout cas, perçoivent parallèlement quelque chose qui est de l'ordre de 50, ce qui est tout à fait considérable. Hein, c'était environ un quart il y a 25 ans, donc vous voyez, il y a eu une progression de la part des revenus de la propriété dans les revenus des ménages, qui signifie que la sécurité, en termes de revenus, de conditions de vie, elle passe de plus en plus aujourd'hui par la propriété. Alors évidemment, pour les ménages qui ne sont pas propriétaires et qui ne vivent que des revenus de leur travail, ça se traduit par des conditions de vie et une situation financière dégradée. Alors dans le BIP 40, on a quelques indicateurs sur le nombre de ménages surendettés, qui reste très élevé. Autre indicateur qui a battu aussi un record en 2005, c'est le pourcentage d'incidents de crédit, qui a vraiment bondi sur la dernière année. La conséquence de cette pression du chômage, de la précarité sur les revenus, la baisse de l'indemnisation du chômage, fait qu'un nombre croissant de personnes, de salariés et de ménages se retrouvent relégués vers les minima sociaux. Donc là aussi, dans le BIP 40, il y a un certain nombre d'indicateurs. J'en cite un. Le pourcentage de la population, c'est-à-dire pas uniquement les allocataires, mais les personnes qui vivent dans les ménages, qui dépendent finalement des minima sociaux pour vivre, a atteint un niveau record en 2005, là encore, 10,2% de la population, ce qui représente 6,4 millions de personnes. Donc on voit bien que la pauvreté s'est développée, enfin si on prend cet indicateur. Et ce qui est encore plus significatif, c'est de regarder le niveau du seuil de pauvreté, c'est-à-dire le niveau de la garantie de revenus procurée par ces minima sociaux. Et là, on est à un niveau qui est le plus faible depuis 25 ans. Un autre chiffre pour illustrer ce phénomène, le revenu moyen des ménages, c'est-à-dire ce que perçoivent en moyenne chaque ménage, ça représentait en 2005 3,6 fois le revenu garanti moyen par ces minima sociaux, et c'était 2,7 en 1984. Donc en contrepartie, les minima sociaux représentent une fraction toujours plus réduite, si vous voulez, du revenu moyen des ménages. Autrement dit, en résumé, il y a de plus en plus de pauvres, et ces pauvres sont de plus en plus pauvres.
Très bien. Donc, vous avez peut-être ce qu'on vient d'entendre. Moi, ce qui m'étonne un petit peu, c'est de voir qu'effectivement, les revenus financiers de la propriété représentent 50% des salaires nets des ménages. C'est quand même important. Hein, donc, est-ce que vous avez des réactions vous, par rapport à ce que vous venez d'entendre ?
Oui, moi j'en ai une. C'est-à-dire que c'est la conséquence d'une logique ultralibérale et d'une économie de rentier en France. Et c'est un phénomène que l'on voit de normalisation par rapport, par exemple, aux États-Unis. C'est-à-dire que il y a trois problèmes. C'est que sous prétexte de libérer l'économie, il y a eu d'abord aucun frein et aucun moyen de contrôle et de sanctions réelles sur le monde de la finance. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, être pauvre, c'est pas simplement un statut social, c'est aussi, c'est pas simplement une conséquence économique, c'est aussi un système juridique et financier qui se met en place. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu as un découvert, tu vas avoir des agios, des sanctions qui seront telles que tu seras encore plus pauvre. Et ça, ceci est pour te pousser à des crédits à la consommation dont les taux usuriers seront très conséquent. Donc on a toute une frange de la population qui effectivement est liée à ça. Deuxièmement, comme il n'y a eu aucune relance du tissu économique au niveau du PTP pour l'accès au logement social, les prix ont explosé. Et à qui profite le crime ? Évidemment, à tout le secteur de l'immobilier et des banques, qui aujourd'hui sont des vrais petits rois et des petits princes qui font les rois dans ce pays. Et c'est un vrai problème, parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que du fait de cette explosion du patrimoine immobilier, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Il y a plus assez de consommateurs. Donc par exemple sur Paris, il y a encore 10 ans, on vendait un bien, ne serait-ce qu'un simple studio ou F2 voire 3 pièces, en une semaine 15 jours. Maintenant c'est 3 mois minimum, parce que les prix sont exorbitants, et ça, évidemment, ça détruit les liens sociaux, puisque ça oblige les gens à migrer. Donc on a une conséquence, par exemple, comme on en avait parlé, sur la longueur du temps de travail, du trajet sur le lieu du travail, toutes ces choses-là. Donc le résultat, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, la bulle économique aux États-Unis, crise immobilière oblige, explose. Et qu'est-ce qui va se passer en Europe ? Sachant, et j'en termine sur ce point, qu'on en est arrivé à un tel point d'endettement qu'un ensemble de ménages français, de jeunes ménages, y compris des gens qui sont hautement qualifiés, donc qui sont cadres supérieurs, ingénieurs, ont emprunté avec des emprunts beaucoup plus longs, mais aussi qui sont à taux variable. Donc s'il y a une explosion de la bulle immobilière et financière, c'est eux qui vont payer les pots cassés, faute d'avoir régulé l'économie au nom du libéralisme.
Bon, c'est bien. Grâce à Christophe, on voit qu'il n'y a pas que des gens qui profitent. Il y a des gens qui peut-être risquent de payer leur spéculation. Mais nous, ce qu'on se disait hors micro, c'est que cette part croissante de propriété dans le revenu des ménages, pour parler des ménages, des simples, pas des grands propriétaires, hein, mais des petits ménages, ça représente tout simplement l'acquisition d'un logement. Et puis la location de ce logement en vue de sa retraite. Mais c'est quand même assez significatif qu'aujourd'hui la part des salaires ne suffit pas à faire vivre une famille. Et c'est peut-être le point le plus dramatique, puisque ça laisse des gens qui sont sans capital ou sans capitaux au départ, sans capitaux à l'arrivée. Et c'est ce que montrent visiblement les chiffres de Pierre Concialdi, c'est que 10% de la population qui vit des minima sociaux, ça représente quand même plus de 6,4 millions de personnes en France, donc qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Alors, dans la prochaine partie, évidemment, Christophe a anticipé effectivement sur la partie explosion des loyers. Et là aussi, il y a des choses à dire.
Globalement, quelle est la contribution de la pauvreté à l'évolution du BIP 40 entre 2002 et 2005? C'est du même ordre que celle du chômage, c'est-à-dire environ 20%. Donc là, on voit bien que les inégalités se diversifient, se multiplient et se traduisent par des difficultés dans les conditions de vie des ménages. Alors tout ça a aussi une incidence. J'ai dit tout à l'heure que depuis une dizaine d'années, l'évolution des BIP 40 était fortement tirée en quelque sorte par ce qui s'est passé en matière de logement. Bon, évidemment, avec les difficultés d'emploi, la multiplication des bas salaires, le développement de la précarité, l'accès à l'emploi devient quelque chose de plus en plus difficile. Ça se conjugue au fait, et là il y a des indicateurs aussi dans le BIP 40, qu'il y a eu depuis quelques années une flambée des loyers qui a été très supérieure à celle de l'inflation, une augmentation aussi du nombre d'expulsions qui a atteint aussi en 2005 un niveau record dans notre pays. Et donc là, on voit bien qu'il y a des difficultés de logement qui sont tout à fait liées aux difficultés d'emploi. Et d'une certaine façon, on pourrait dire que les salariés sont pris en tenaille. D'un côté, on a des bailleurs qui, compte tenu justement de la sécurité sociale croissante, exigent des garanties sans cesse plus fortes. Il faut avoir un emploi stable, il faut avoir des revenus stables et des revenus élevés qui représentent souvent 3 voire 4 fois le niveau du loyer. Et de l'autre côté, on a des employeurs qui ne proposent que des emplois à bas salaire, intérimaires, sans réelle garantie ni sécurité. C'est ce qu'on a montré notamment dans plusieurs notes du collectif.
C'est assez intéressant. Est-ce que vous avez une réaction Est-ce que vous avez une réaction par rapport au loyer? Effectivement, les loyers sont de plus en plus chers à Paris, en principe, particulièrement. Effectivement, il faut avoir 3 à 4 fois le prix du loyer en salaire pour pouvoir bénéficier d'un appartement. Principalement, c'est vrai que c'est horriblement cher, quoi.
Alors, par rapport à ça, moi j'ai souvent dit à la radio, mais je le rappelle parce que effectivement, ça explique pourquoi ça explose pas en France, c'est que du fait de cette explosion des loyers, d'abord, c'est pas qu'à Paris, hein. La province a pris le relais depuis 2-3 ans, hein, ne serait-ce que, par exemple, en Normandie, les loyers ont augmenté d'environ 15% l'année dernière.
Hein, mais ils sont encore en dessous des prix parisiens. Hein.
Oui, mais les salaires sont moindres aussi. Donc il y a un tsunami financier immobilier qui englobe toute la France.
Hein. Oui, et puis il faut rappeler aussi que le mouvement des capitaux, ça favorise l'achat de logements dans les zones frontalières, c'est-à-dire tout ce qui est proche de la Suisse et de l'Allemagne, mais aussi ce qui est proche plus ou moins de l'Angleterre, comme tu disais, où les gens peuvent effectivement migrer et acheter plus facilement, ce qui dans ces régions périphériques provoque des hausses de loyers qui sont pratiquement équivalentes à Paris.
Alors il y a effectivement un problème, c'est que l'ouverture des marchés sans contrepartie a fait que par exemple au début des années 90, début des années 90 en Basse-Normandie, en Haute-Normandie, les Anglais sont arrivés parce que les prix des loyers là-bas, ils peuvent pas être propriétaires. Donc ça leur a permis d'acquérir énormément de biens et ça a fait flamber les prix en Normandie. Aujourd'hui, c'est la région Poitou-Charentes qui prend le relais, sans bien parler bien sûr du sud de la France. Hein. Le centre n'est pas encore touché, mais la Bretagne a été touchée ensuite en deuxième vague. Ce qui fait tenir les Français de chousse et du pays, c'est le capital financier et culturel. C'est-à-dire, en gros, c'est la famille qui subvient par le capital et le fait des 30 glorieuses sur ces augmentations successives jusqu'au moment où ça craquera.
Voilà, et où on s'attrouse dans la rue. Moi, j'ajoute en fait qu'on peut parler des banlieues indéfiniment, mais au vu simplement de la flambée des loyers et au vu des politiques de logement qui ont été menées dans ce pays, il est clair que les différences, la ségrégation spatiale tend à s'accentuer finalement. C'est-à-dire qu'en rejetant toutes les populations modestes à la banlieue elle-même, la proche banlieue se boboïse, comme on dit. C'est-à-dire que les gens qui ont la possibilité d'acheter dans ces banlieues achètent. Et par contre, on rejette un peu plus loin encore les classes ultra populaires des HLM, dans les cités HLM.
Très bien. Donc maintenant, on va entendre un peu les indicateurs sur la santé et la justice, parce qu'il y a beaucoup de sujets qui sont traités par le par le baromètre des inégalités. On écoute et ensuite on reprendra la parole.
Alors il y a d'autres indicateurs que sur le chômage, le travail, sur les inégalités de revenus, la pauvreté et le logement dans le BIP 40. Ça concerne, comme je vous l'ai dit en introduction, la santé, l'éducation, la justice. Sur ces différents domaines, en termes de variation, hein, je ne parle pas du niveau des inégalités, en termes de variation depuis 2002, on n'observe pas de changement très significatif. Ça ne signifie pas que la situation ne soit pas préoccupante dans un certain nombre de domaines, c'est-à-dire qu'il y a des indicateurs qui sont à un niveau très très élevé et très préoccupant. Quelques exemples. Dans le domaine de la justice, la situation reste très dégradée. Je rappelle que, comme on l'avait montré l'année dernière, le taux d'incarcération avait fait un bond spectaculaire en 2004. Il s'est maintenu en 2005 au même niveau, donc on a un niveau tout à fait record. Pour les étrangers, la situation demeure également précaire. Le taux de reconnaissance du statut de réfugié est resté à un niveau très faible, de l'ordre de 17%, qui est le niveau le plus bas observé depuis 20 années. Je vais très vite sur les autres domaines. En matière d'éducation, l'éducation, c'était un domaine qui avait contribué sur les 20, depuis le début des années 80, à la baisse du BIP 40. C'est-à-dire qu'on a observé une baisse des inégalités en matière d'éducation. Le changement le plus notable depuis le milieu des années 90, c'est que ce mouvement a été stoppé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de baisse, la démocratisation de l'école s'est interrompue, et les inégalités en matière de réussite scolaire ne se sont plus réduites. Et enfin, bon, en matière de santé, même si sur la période récente, on n'observe pas de variation, encore une fois, significative, on peut rappeler que bon, la réforme de l'assurance maladie va mettre à la charge des ménages une part croissante des dépenses de santé. On peut rappeler aussi que, selon les statistiques les plus récentes de l'INSEE, l'espérance de vie, l'écart d'espérance de vie entre ouvriers et cadres a continué à augmenter et se situe dans notre pays à un niveau d'ailleurs qui est assez sensiblement, qui est très élevé par rapport à certains autres pays. Donc la conclusion qu'on en tire, c'est qu'en matière de chômage, comme en matière d'insécurité sociale, d'autres chiffres sont nécessaires pour rendre compte des inégalités et aussi, évidemment, engager les politiques les plus aptes à les combattre.
Voilà, donc effectivement, la différence, l'écart d'espérance de vie entre les cadres et les ouvriers a augmenté. Donc ça veut dire qu'un ouvrier qui fait un travail pénible a moins de chances de vivre longtemps, ça va de soi. Et en même temps, effectivement, les dépenses de santé sont plus chères, donc c'est plus cher pour les ménages. Donc tout ça, ça va bien, on est bien dans le libéralisme à tout craint là.
Hein. Oui, en plus, c'est vrai qu'on dit souvent qu'on revient un peu vers le 19e siècle. On a des signes de retour vers le 19e siècle avec la rente, entre autres, l'explosion de la rente. Mais l'espérance de vie différente entre les ouvriers et les cadres qui augmente, qui se creuse, c'est aussi un retour vers le 19e siècle parce que on a maintenant une réponse à tous les gens qui trouve que bien dans le bâtiment il y a du travail mais il n'y a pas assez de gens pour travailler, il n'y a pas assez de bras. C'est un exemple parmi d'autres de la condition d'ouvrier, mais c'est l'exemple aussi d'une espérance de vie moindre pour les gens qui vont sacrifier leur vie dans ce travail-là, par exemple.
Oui, derrière ça, il y a une menace qui est encore plus grande, mais là qui est spécifiquement française, qui fait qu'on pourrait effectivement devenir un jour un pays soit en voie de développement, soit du tiers-monde. C'est que contrairement, par exemple, aux pays comme le Canada, enfin l'Amérique, les États-Unis, on a un problème spécifique en France, c'est que outre ces dégradations des conditions de travail ouvrières, c'est que la France ne fait plus le pari de la démocratisation sociale, donc sociale et éducative. Donc là, ça pose un véritable problème de relation entre les différents univers du travail, puisqu'aujourd'hui, être énarque est une condition extrêmement privilégiée, je dirais même féodale, de seigneur.
Pénible aussi, hein.
Oui, avec humour. Et ça pose un second problème, c'est que nous n'investissons plus dans la recherche et l'éducation. Contrairement à d'autres pays européens et comme contrairement aux États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis sont pour le libéralisme, il y a 20% de pauvres et de gens très pauvres, mais ça on le sait. Mais d'un autre côté, ils mettent énormément d'argent et énormément de moyens dans tout ce qui est du domaine de la recherche, de la connaissance intellectuelle, etc., etc.
Et dans les investissements qui suivent aussi.
Et les investissements qui suivent. Et on n'a pas ces mécanismes de régulation pour une raison historique, c'est-à-dire que les grandes fortunes françaises sont d'origine familiale et ont de fait créé une économie de rentiers, hein, oui, qu'on retrouve par l'intermédiaire des mécanismes d'avantages sociaux et fiscaux qu'on a dans le domaine de l'économie financière.
Très juste, merci Christophe. Et Ludo, on va écouter une petite chanson et ensuite on passera des passages. Merci. C'était Paco Ibáñez, bien sûr, donc une belle chanson espagnole, un peu molle, c'est vrai, je l'avoue, mais c'est pour pleurer sur les prochaines défaites de la gauche aux prochaines élections, donc dimanche, en espérant que, bien sûr, vous allez tous voter, hein. Ça va de soi. Très bien, on va reprendre cette émission. Voilà, donc on va écouter une petite partie des réactions du Mouvement National des Chômeurs et Précaires sur, évidemment, le BIPIN 40.
Moi, je veux bien compléter par plus le ressenti de terrain. Alors, tous ces chiffres-là, nous, on les constate, où c'est un ressentiment sur le terrain. Pour rappel, le MNCP, c'est 40 associations en France qui reçoivent en tout 100 000 passages de chômeurs et de précaires par an. Bon, le fort sentiment de l'injustice, hein, on montre beaucoup du doigt les chômeurs, en particulier dans cette campagne électorale. Ça, c'est très mal vécu par beaucoup de chômeurs. Et cette pression, pour la plupart des gens, ils l'estiment injustifiée, dans le sens où le manque d'emploi... n'est pas du fait des chômeurs. Le manque d'emploi est là. La plupart des chômeurs aimeraient se lever tôt, aimeraient aller travailler. Mais il se trouve qu'il y a très peu d'emplois disponibles. Et d'être montré du doigt à ce point-là, c'est très mal vécu par beaucoup de chômeurs et de précaires, et ce qui est très légitime de notre point de vue. On estime aussi que refuser une offre, c'est un droit, parce qu'on nous dit aujourd'hui... à la troisième offre, on doit l'accepter, voire à la deuxième offre. Pour rappel, il y a des gens qui ont investi une partie de leur vie sur des formations, sur des études. Ils attendent un retour sur investissement, ce qui semble logique. Et on leur dit aujourd'hui, la deuxième offre, la troisième offre, vous devez la prendre. Moi, j'ai eu un cas concret, une demande qu'on avait fait auprès de M. Charpie à la direction régionale de la NPE, nationale de la NPE, qui nous disait, si vous êtes chômeur de courte durée, 5-6 mois, effectivement, vous pouvez refuser un emploi. Par contre, si vous y êtes depuis 2 ans, vous devez l'accepter. Alors, sur un cursus où on a pu commencer plâtrier et maçon et finir travailleur social, on peut vous redemander de retourner à la case de départ. Donc, c'est quand même quelque chose qui est plutôt assez scandaleux. Et c'est normal que des gens refusent certains emplois qui ne correspondent pas à leur investissement, à la façon dont ils ont progressé dans leur carrière sur toute une vie. Les minima sociaux, c'est de notre fenêtre, nous, c'est une ultime solution. Les gens, ils vont pas par plaisir sur les minima sociaux. Tous les chômeurs qui basculent vers les minima sociaux, c'est parce que c'est l'ultime solution. C'est pas un choix. Vivre avec 460 euros, c'est pas un choix. On peut pas le voir de cette façon-là. Voilà pour l'essentiel, hein, mais le constat d'une augmentation de la pauvreté, tout, nous, on le constate tous les jours sur le terrain.
Et oui, c'était les réactions du MNCP, évidemment. Ça s'appelle l'employabilité des chômeurs, c'est-à-dire qu'ils soient prêts à les rendre employables pour n'importe quel boulot, même si ils le vivent comme une régression. C'est pas le problème de nos dirigeants, comme tout le monde ici l'a bien compris. Et puis évidemment, la chasse aux chômeurs, la chasse aux parasites, ce qui est évidemment une forme de chasse aux pauvres, en définitive. Alors, dans le BIP 40, il y a aussi un indicateur justice. Donc, ça peut être un truc un peu bizarre. Hein, on peut se demander ce qu'il fait là. Mais Pierre Concialdi a la réponse.
Oui, alors, donc là, c'est un baromètre des inégalités et de la pauvreté. C'est un baromètre qui juxtapose des indicateurs dont nous avons jugé qu'ils étaient pertinents pour refléter, on va dire, l'état de la cohésion sociale dans le pays. Donc on va prendre par exemple le taux d'incarcération, c'est la proportion de personnes dans la population qui sont en prison. Il nous semble que c'est un indicateur qui reflète l'état de cohésion ou de décohésion, disons, d'une société. Plus une société est amenée à emprisonner une part croissante de sa population pour s'en protéger, plus, selon nous, ça signifie que la cohésion sociale est en déliquescence. Alors, on sait bien, par exemple, que les États-Unis sont le pays du monde où la population carcérale représente la plus forte proportion de la population. Bon, de nombreux travaux ont montré qu'il y avait une criminalisation de la pauvreté et que de plus en plus, on enfermait les pauvres avec les politiques de tolérance zéro et toutes les politiques de répression, de renforcement de la répression, qui sont manifestement à l'ordre du jour aussi en France, sont des politiques pour nous de criminalisation de la pauvreté et qui contribuent à la déliquescence du lien social.
Très bien, je crois que tu avais une petite réaction, Christophe.
Ben oui, enfin, c'est pour rappeler une telle évidence, quoi. C'est-à-dire que sans expliquer les actes délictueux plus ou moins des personnes et justifier ces crimes et délits, effectivement, aujourd'hui, la prison dans la logique, dans l'idéologie néolibérale et néoconservatrice américaine, mais qui est représentée par Monsieur Sarkozy en France. La prison, c'est très utile. Ça permet d'enfermer les pauvres. Donc, et d'étouffer dans l'œuf toute volonté de revendication ou de révolte. C'est tout. Voilà.
Et
c'est,
oui, et puis des pauvres, plutôt effectivement, d'origine étrangère, etc.
Non, quoi. Des indigents.
Comme aux États-Unis.
Et puis, ouais, comme les États-Unis aussi. Il y a le problème des minorités visibles. Mais il y a aussi un autre élément, c'est que ce qu'on oublie de dire, et là je reviens à un reportage qui est passé récemment sur France Télévisions, c'était Johnny d'Envoyé Spécial, c'est qu'il y a une série américaine excellente qui est basé sur effectivement le vécu de la rue, qui est aujourd'hui, qui fait un carton aujourd'hui aux États-Unis depuis plusieurs années, je sais plus le titre de cette série, mais qui dénonce toutes ces dérives sociales et politiques. Or, lorsqu'on a un regard du français moyen à travers les médias actuels qui sont contrôlés par qui on sait, on regarde ce qui se passe aux États-Unis, bah tout va très bien d'après Monsieur Bush, et on n'entend pas que derrière il y a des réseaux et des gens, des forces, des agents sociaux agissant qui sont totalement contre cette idéologie ultralibérale qui est aujourd'hui rejetée en masse aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Monsieur Aznar, il est parti. Voilà.
Oui, sauf en France, on va dire.
Voilà, et voilà. C'est un vrai problème.
Mais oui, je voulais
France,
rappeler juste...
En France, c'est Napoléon. C'est...
Oui, oui, peut-être. Et moi, je voulais rappeler juste une remarque, c'est de quelqu'un dans l'administration américaine. C'était au moment où George Bush arrivait au pouvoir. Et il parlait de la politique de tolérance zéro. Et il parlait, oui, la politique de tolérance zéro, bah, c'est bien simple. Hein. Dans le milieu des procureurs, puisque vous savez qu'aux États-Unis, la défense et l'accusation sont séparées, et que le procureur instruit exclusivement à charge. Donc son but est accusatoire. Il ne cherche que les éléments à charge. Et donc ce qui fait une justice très expéditive et très dure. Et dans le milieu des procureurs, la remarque qui courait, mais vous savez, tolérance zéro, pourquoi ? Même tolérance zéro pour quelqu'un qui a été victime d'une injustice, d'une erreur judiciaire, s'il enfreint la règle dans la prison, il sera recondamné à, on va dire, 50 plus de prison. Même les plus dramatiques ne nous concernent guère, parce que eh ben c'est une guerre, et cette guerre il faut la gagner. Voilà, et c'était cette vision politique de ce qu'était la délinquance, la criminalité, et évidemment la pauvreté aux États-Unis.
Donc il y a aucune compréhension d'un délit qui n'avait pas été de quelqu'un d'innocent qui est en prison, qui serait révolté par sa condition d'être emprisonné parce qu'il est innocent. Et donc d'accord.
Non, parce qu'il a, il voilà. A, à partir du moment où,
c'est
en fait,
une guerre,
tu enfreins la règle, voilà.
Alors, c'est intéressant.
Voilà. Bon, ça peut peut-être donner des idées à d'autres ici prochainement, c'est possible. Alors, c'est vrai que dans toute cette histoire-là de pauvreté, de criminalisation, il y a quand même une question qui reste importante. C'est pourquoi allons-nous pas travailler ? Enfin, pourquoi les chômeurs ne vont pas travailler quand il y a 500 000 emplois vacants ? Vaste question qu'a posée une journaliste présente au collectif ACDC, et on écoute la réponse.
Oui, 500 000, c'est manifestement exagéré. Enfin bon, les estimations raisonnables, autant qu'on puisse le dire, de ces choses-là qui ont été faites publier dans un certain nombre de rapports, c'est plutôt entre 200 et 300 000, première chose. Deuxième chose, c'est pas un phénomène nouveau. Il faut quand même rappeler que des vacances d'emploi, il y en a eu depuis très longtemps. c'est un autre point, je pense, qu'il faut rappeler. Il faut aussi dire que c'est la même chose dans les autres pays. Hein, le taux de vacance d'emploi, il est même plutôt en France plus faible que dans un certain nombre d'autres pays. Alors, ça serait un peu compliqué de se livrer à une comparaison multidimensionnelle, mais ce que j'ai en tête, c'est que il y a des pays où le taux de chômage est faible et où les vacances d'emploi sont élevées, et réciproquement, enfin, il n'y a pas de lien mécanique. Hein. Donc je crois qu'il faut d'abord relativiser cette question-là. D'une part, encore une fois, parce qu'il y a toujours eu, c'est assez naturel qu'il y ait un certain nombre de frictions. D'autre part, parce que comme l'a montré d'ailleurs un récent rapport du CAS, il y a effectivement des métiers qui ont des difficultés de recrutement, mais qui sont pour des raisons relativement objectives. C'est-à-dire que des métiers qui sont fuis par les gens parce que les conditions de travail, les conditions de rémunération ne sont pas satisfaisantes. Ce qu'on a dit dans la précédente note du collectif sur la précarité, le développement d'emplois à bas salaire, le développement de l'emploi insoutenable, c'est précisément que, au-delà du chômage, ou à côté plutôt du chômage, se développaient des formes d'emploi tout à fait dégradées, qui ne correspondent pas à ce que souhaitent les gens, qui les occupent éventuellement de façon temporaire, épisodique, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Si leur indemnisation se termine et qu'il faut bien vivre et qu'on n'a pas accès aux minima sociaux qui restent, encore une fois, je le redis, il faut le souligner, le RMI, c'est un des niveaux les plus faibles en comparaison des pays européens, en France. Hein, et je rappelle qu'il est que les jeunes sont exclus de ce RMI, sauf s'ils sont en charge d'enfants. Enfin, grosso modo, avant 25 ans, on n'a pas le RMI. Donc, on n'a pas d'autre choix, éventuellement, que de prendre ces bouts d'emploi. Voilà, je pense que la question des emplois vacants, c'est pas la question majeure aujourd'hui quand on la rapporte aussi à l'ensemble des emplois.
Oui, 300 000 emplois vacants par rapport à 4,2 millions de personnes inscrites à la NPE. Bon, c'est voilà, les ordres de grandeur sont clairs, hein, ça n'est vraiment pas le problème. Catherine Sud à NPE.
Oui, pour compléter sur cette question-là, il faut savoir aussi que nombre d'offres d'emploi en intérim que la NPE enregistre ne correspondent pas forcément à de vraies offres d'emploi. C'est-à-dire qu'il faut savoir ça, c'est que les boîtes d'intérim se servent de la NPE pour alimenter leurs fichiers. Donc ce sont des offres d'emploi qui ne correspondent pas à des postes. Donc ça aussi, ça fait partie des fameux chiffres annoncés. Donc on voit bien que ces chiffres sont relativement bidons. C'est-à-dire qu'il faut les décortiquer pour comprendre à quel point ça ne correspond pas du tout à des réalités de postes offerts, hein, aux demandeurs d'emploi.
Très bien. Est-ce que vous avez une petite réaction sur Christophe?
Oui, je pense que ce qu'a dit la responsable syndicale à ANPE, Sud ANPE,
Catherine Lebrun de Sud ANPE,
est extrêmement important. Les Françaises veulent travailler. Ils ont une culture du travail. C'est faut arrêter de dire que les Français sont des feignants, quoi. C'est n'importe quoi. D'ailleurs, un vécu récent, puisque je suis actuellement en recherche d'emploi, mais qui traduit bien l'abus des patrons. C'est, je rappelle d'une part qu'il y a actuellement en France que 1500 inspecteurs du travail titulaires et très peu de contrôleurs des impôts à côté, leur subalterne. Donc le marché du travail ne peut plus être surveillé en termes de droit aujourd'hui. C'est-à-dire que les inspecteurs du travail n'ont plus les moyens de faire appliquer l'état de droit. Mais ça, les libéraux ne s'en vantent pas. Puis ils veulent surtout pas qu'ils s'en vantent. Et la conséquence de ça, c'est que les employeurs, quel que soit le domaine d'activité, hein, ça va du travail social en passant par le BTP, en profitent à mort. Moi, récemment, j'ai eu un exemple de genre où un foyer de jeunes travailleurs à HR, hein, reconnu, respecté, obéissant soi-disant aux conventions collectives, recherchait un travailleur social pour faire du lien social justement dans ce très gros foyer de jeunes travailleurs. Et j'avais postulé puisque j'avais les qualifications correspondantes, sachant qu'il était quand même exigé de diplôme de cadre. Et le diplôme de cadre obéit à une convention collective, hein, puisque c'est un diplôme professionnel. Et là, j'arrive, et là, alors que j'ai un diplôme qui est équivalent à un bac plus 4, on m'apprend que je vais être payé comme un vulgaire bachelier, sachant que je travaillerai de nuit et que mes horaires de nuit ne seront pas surtaxés conformément à la législation en vigueur. Donc moi, comme je voulais travailler absolument et que j'avais besoin de travailler, ben j'ai accepté l'emploi. Hein. Mais le problème, c'est que je me suis rendu compte au cours d'un entretien que l'employeur eux-mêmes, d'abord, s'il en est arrivé à de telles expédients, c'est qu'il y avait une gestion calamiteuse. Donc gestion calamiteuse égale report sur le coût du salaire et l'environnement et les conditions de travail. Grand classique qu'on vit aussi récemment aussi bien à Alcatel qu'à Airbus, hein, dois-je le rappeler.
Et la deuxième conséquence, c'est que l'offre d'emploi était tellement misérable au regard des exigences. Qu'est-ce qui s'est passé ? 4 mois plus tard, bien sûr, j'ai jamais été rappelé pour cette offre-là parce que j'avais manifesté par ma personnalité une certaine forme de résistance qui pouvait être problématique. 4 mois plus tard, je vais sur le site de la NPE et je vois l'offre, quoi. C'est-à-dire que c'était tellement bas que personne n'a pris. Or, et c'est là où j'en arrive à mon propos, c'est que, et c'est là où on a la contradiction des libéraux en général, c'est que les libéraux disent oh, regardez, il y a 300 000, 500 000 emplois qui ne sont pas pourvus en France. Bah ouais, mais si on est dans leur logique, il faut faire alors la régulation selon l'offre et la demande du marché. Donc l'employeur, il devrait augmenter au moins le salaire. Et évidemment, ils n'en veulent pas. C'est une contradiction des libéraux.
Moi, j'ai un autre exemple entre 1993 et 2003. Entre 1993 et 2003, sur un même travail. Sur 80% du temps travaillé, c'était une perte de 1000 francs. Hein, donc, c'est pour montrer un peu le niveau.
150 euros.
Voilà, 150 euros.
Non, donc, et puis, ça pose le problème de l'immigration aussi. Hein,
oui, bien sûr.
On maintient l'immigration, un flux tendu d'immigration pour une certaine disponibilité pour des emplois. Hein,
tout à fait.
On a besoin.
Oui, oui, oui. Donc, je crois qu'on a Marc au téléphone. On va l'écouter tout de suite.
Bonjour.
Bonjour, Marc.
Bonsoir.
Alors, comment vas-tu?
Depuis l'occupation du palais Brognard.
Ouais, c'était pour raconter un peu ça, quoi.
D'accord.
Parce que là, quand même, forcément, les médias parlent beaucoup de la campagne électorale, mais en même temps, il y a eu la semaine dernière l'occupation qui a duré assez longtemps, 3 jours sur le toit de l'UNEDIC. Et cette semaine, avec d'autres, était préparée donc cette action direction du palais de la Bourse. Enfin, de l'ancienne bourse, le palais Brognard, et avec l'idée d'y rester le plus longtemps possible. En fait, l'intervention de la police a été très rapide, hein, puisque moins de 4 heures après l'arrivée, on était au commissariat du 11e, où il n'y a pas eu de suite, parce qu'il n'y a pas eu de dégradation, parce qu'ils n'ont rien trouvé, et puis parce qu'ils préféraient que les choses se terminent vite. Mais on y était allé... Alors c'était un mouvement dans lequel on retrouve... une action dans laquelle on retrouvait à la fois qui avait été montée avec le collectif des non-titulaires de l'éducation nationale, ce qui nous avait permis de faire des liens avec des gens de la CNT et de Sud, et puis aussi de la coordination des intermittents. Et au total, on a une déclaration qui n'est pas inintéressante sur les questions portées par nous tous, quoi, sur la lutte contre le chômage et la précarité.
Oui. Ben, tu peux nous la dire ou...
Ouais, je pourrais la résumer.
La résumer, ouais, j'ai bien,
ouais. Ouais, donc ça s'est transformé en texte qu'on demandait à présenter aux candidats, enfin qu'il soit lu en introduction du débat politique. Bon, l'intervention des flics a fait que ça n'a pas été du tout négocié. Mais ça partait du constat qu'actuellement, ce qu'on entend, c'est des formulations un peu générales en termes de sécurisation professionnelle, retour à l'emploi, valorisation du travail, des choses qui, dans le meilleur des cas, seraient discutées par les partenaires sociaux habituels. Oui. Et qu'on était dans une situation qui était un peu contradictoire, puisque d'un côté, il y a une réduction de la part des richesses marchandes produites chaque année qui revient aux salariés, donc... toute une série de choses en conséquence confirmées par des indicateurs statistiques en termes de salaire d'embauche à la baisse, radiation NPE, expulsion locative, surendettement, nombre de travailleurs pauvres, etc. Enfin, et que en plus là-dessus on rajoute une politique de contrôle et des discriminations anciennes mais toujours aussi pénibles à supporter. Mais que d'un autre côté, ce qu'on voyait, c'était aussi des mobilisations des formes de lutte qui avaient été pratiquées par différents mouvements, des blocages, des occupations. Le blocage, ça nous avait... Je crois qu'on faisait... l'idée, c'était de faire référence à la lutte contre le CPE, oui, notamment, mais aussi aux actions qui avaient été menées par les chômeurs dans les années précédentes, ou d'autres formes de... ou d'autres mouvements, comme les profs en 2003, enfin, des formes d'action de plus en plus pratiquées et au final efficaces dans les luttes, et puis des revendications communes portée par tous et tous et qu'on appelait à reprendre. Et puis là, en l'occurrence, donc, aux candidats d'entendre, au moins. D'accord. Et dans les choses qui étaient dites, c'était l'indemnisation de toutes les formes de chômage et de précarité, avec en urgence la levée de l'interdiction du RMI au moins de 25 ans, le fait que ce soit un droit individuel et toutes les allocations soient revalorisées. le libre choix de son emploi avec l'abrogation des textes sur le contrôle et le profilage, le contrôle et la sanction des chômeurs, un droit d'option pour les salariés en CDD ou à temps partiel. Ça, c'est un peu un enrichissement par rapport à ce qu'on dit habituellement côté AC, quoi. Un droit d'option pour donc ceux qui sont en emploi précaire pour pouvoir opter pour un CDI à temps plein s'ils le souhaitent. Et en urgence, l'abrogation de l'ordonnance réformant le Code du travail qui a pris le gouvernement en mars, là. Et puis la titularisation des différents non-titulaires des différentes fonctions publiques, puisqu'on sait que la fonction publique utilise beaucoup de précaires. Je crois qu'il y avait un ou deux autres points comme ça de revendication, mais enfin, ce qui était la remise à plat de l'assurance chômage avec la participation active des premiers concernés dans la définition d'un nouveau système. Voilà, on a dit pas mal de choses. Alors, bon, il faudra voir, hein, l'action a été fortement écourtée par la police.
Oui.
Ce qui était frappant, c'est qu'elle s'est faite parce que vraiment les gens en avaient envie, quoi. Au niveau de la préparation, c'était pas aussi bien ficelé que celle de l'UNEDIC, mais quand même, il y avait la volonté de le faire. Et ça s'est fait principalement parce que les gens le voulaient, quoi.
Et parce qu'il y avait aussi un ras-le-bol et puis que les gens avaient envie de réagir, etc.
Ouais, ouais. D'accord. Et qu'on sent bien que quoi qu'il se passe... Enfin, il y a le cas le pire et le moins pire dimanche, mais quoi qu'il se passe, de toute façon, bon, rien ne sera vraiment réglé. Il y a des grands dossiers qui sont ouverts, c'est écrit aussi dans le communiqué, j'oubliais, les échéances qui sont annoncées, que ce soit la délibération sociale là, que mènent le MEDEF et la CFDT et quelques-uns de leurs amis pour préparer les réformes à venir, la décentralisation du RMI... poursuit les délocalisations qui tapent fort. Enfin, il y a différents sujets qui font que de toute façon, on est sûr que nos questions de chômage et de précarité vont revenir d'actualité, nécessiteront qu'on arrive, si on veut s'en sortir au mieux, à constituer le rapport de force dont on a besoin, quoi. Et avec, donc, dans ce texte, l'impression que peut-être qu'on peut. Enfin, il y a des... Voilà. Alors le texte il circule sur les mails, il est sur différents sites et, oui. Et là où il n'est pas, j'imagine qu'il y sera durant le week-end, enfin en tout cas okay. Que ça va pas tarder, mais c'est un texte bon, qui aura peut-être des suites, enfin en tout cas il faudra voir.
Est-ce qu'il y a un appel à signature ou
Non, c'est pas ça. C'est une proposition de débat, quoi.
D'accord,
c'est...
très bien. Ok, bah écoute, je te remercie beaucoup pour ces précisions et puis ce sont de belles revendications dont on parle souvent aussi à cette radio aussi, hein, donc
Alors, je glisserais bien tout petit
oui.
truc.
Oui.
Dans le cadre de ce qu'essaye de faire parade trop irrégulièrement avec vous autres à l'antenne,
oui.
Mais signaler qu'il y a une. Le tribunal administratif de Montpellier a donné raison à un chômeur qui contestait sa décision en référé, et c'est ça la nouveauté. La décision de radiation dont il était victime. La NPE l'accusait de ne pas être venu à un rendez-vous, lui disait ne jamais avoir été convoqué, et la CEDIC est donc obligée de lui verser les allocations dues. Bien, et voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a été en référé, donc ça a été assez rapide. Ça reste long, mais ça a été assez rapide, et ça a marché, quoi. Donc c'est un outil de plus qu'on a pour nous défendre quand on est attaqué.
Très bien.
Merci Marc.
Merci à vous.
Merci Marc.
À bientôt.
Oui, et comme on sait, Sarkozy n'aime pas la justice et elle le lui rend bien. Eh bien, on Salut. Va finir cette émission avec les dernières interventions du collectif ACDC, donc qui porte sur le BIP 40 international. Pourquoi le BIP 40 international? Bah, tout simplement en raison de trouver une alternative à la mesure du PIB, c'est-à-dire la richesse marchande. Donc on va l'expliquer. Et derrière, on aura aussi l'explication pourquoi l'INSEE a du mal à mesurer les inégalités.
Il y a une initiative semblable en Belgique. Je sais qu'il y a eu une association aussi qui a fait un calcul d'un indicateur du même type que le BIP 40 en Belgique. Sinon, il y a toute une littérature internationale qui s'est développée depuis plusieurs années autour de la question des nouveaux indicateurs de richesse. Les indicateurs alternatifs au PIB. Donc, nous, notre initiative s'inscrit dans ce courant-là. Hein. L'idée que les indicateurs classiques, comme le PIB, sont tout à fait insuffisants à décrire l'état du bien-être social, ou dans notre cas, le mal-être social. Ce que montre la plupart des tentatives de ce genre, notamment au Canada, aux États-Unis, c'est que à partir du milieu des années 70, alors que le PIB continuait à augmenter de façon un peu moins rapide, mais quand même constante, les indicateurs de santé sociale, par exemple, construits par une équipe américaine, n'augmentent pratiquement plus, donc stagnent. Donc il y a une déconnexion croissante entre, disons, la richesse marchande produite et qui continue à augmenter, et le niveau de bien-être social qui, lui, n'augmente plus, voire diminue dans certains pays. Et c'est lié, effectivement, à la question des inégalités de revenus qui se sont développés beaucoup, notamment dans les pays anglo-saxons, la question du chômage de longue durée, la question des taux d'incarcération, des taux de suicide des jeunes, toute une série d'indicateurs qui sont pris en compte dans ces indices et qui montrent un petit peu le même genre de phénomène que ce que nous avons pu montrer pour le cas de la France.
Il faut savoir que dans les chiffres de la pauvreté de l'INSEE sont calculés à partir d'enquêtes auprès des ménages et d'enquêtes qui reposent sur les revenus fiscaux des ménages. Or, il se trouve que la fiscalité est totalement dérogatoire pour la plupart des revenus de la propriété parce qu'ils sont soit exonérés, soit soumis à un prélèvement libératoire, donc en tout cas en dehors du champ de l'impôt progressif, ce qui fait que dans les enquêtes, enfin dans les revenus fiscaux, dans les déclarations fiscales des ménages, on ne récupère qu'une toute petite partie de ces revenus de la propriété, environ 20%. Or, le problème, c'est que depuis la fin des années 70, la masse de ces revenus a complètement explosé. Elle a augmenté 3 fois plus vite que l'ensemble des autres revenus. En cumulé sur 20 ans, ça fait énorme. Et donc, on se dit, si les enquêtes fiscales gomment, en quelque sorte, ces revenus de la propriété qui augmentent beaucoup plus rapidement que les autres revenus, ça biaise quand même la mesure des inégalités et de la pauvreté. Puisqu'on sait, par ailleurs, que les revenus de la propriété, ils se concentrent de façon tout à fait significative sur un certain nombre de ménages qui sont plutôt dans le haut de la distribution. Donc c'était la raison pour laquelle on avait alerté sur les déficiences de cet indicateur, déficiences qui ont d'ailleurs été reconnues dans le rapport dont parlait Thomas, et c'était une priorité du système statistique que de la combler. Bon, on attend, on espère que ça sera fait le plus vite possible. Donc voilà l'origine, si vous voulez, du problème posé par cet indicateur. Principalement parce qu'il occulte des revenus de la propriété qui, encore une fois, ont explosé et qui changent significativement la donne, à la fois en matière d'inégalité et de pauvreté.
Bonsoir. Vous pouvez donc écouter cette émission sur modedemploi.net, donc www.modeemploi-d-emploi.net. Merci messieurs d'avoir fait cette émission. Merci messieurs, dames de l'avoir suivi. Je vous dis à la semaine prochaine. Bonsoir.
Bonsoir à tous.